Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est toujours Sébastien Embogast qui vous parle en direct de Ubud, Bali, Indonésie. Et oui, toujours là, on n'a pas changé pour l'instant, ça va venir dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, une actualité assez chargée et on a cette fois-ci aussi un édito de plume. Vous allez voir un bel édito bien enflammé comme on les aime. Et puis aussi du courrier des auditeurs et un dossier du Proof of Cast assez velu. Donc, il y a de quoi faire. À mon avis, on va dépasser l'heure, hein, c'est pas grave. Ça compensera un petit peu le fait que cet épisode arrive avec un tout petit peu de retard, hein, une journée, à la faveur d'une petite intoxication alimentaire qui m'a laissé cloué au lit toute la journée d'hier. Désolé pour ça. J'espère que vous me pardonnerez cette petite entorse à l'agenda. Et on va démarrer tout de suite avec l'édito de Plume, qui, comme vous allez le voir, est, comme je le disais, assez enflammé. Plume, on t'écoute.
Chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast qui vous fait rêver, de crypto. Oui, mes amis, rêvons encore et laissons-nous porter par l'imagination et l'onirisme que nous inspire un monde décentralisé, un monde rendu possible par les cryptos, par les technologies de la blockchain. À l'heure où la révolution a été confisquée par l'aréopage des pontes marketing, nous vantant et nous vendant les mérites d'un écran un peu plus grand ou un peu plus brillant comme révolutionnaire, réinventons, réimaginons. De la traçabilité des blancs de poulet chez Carrefour à la numérisation des actes notariés, la blockchain est devenue ennuyeuse, chiante, pesante. Elle nous empêche de rêver, de réaliser ce qui se cache derrière cette technologie. Que le Bitcoin fasse $50 de plus ou de moins, qu'une start-up lance une ICO pour faire un Twitter vaguement décentralisé, on s'en branle, on s'en bat les attributs sexuels pendouillants. Toutes ces annonces, tous ces projets, tous ces débats techniques, toutes ces nouveautés révolutionnaires me font à peu près autant d'effet qu'une keynote Apple, et c'est pas peu dire, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Ça me laisse froid, pantois, un peu en colère de perdre mon temps, mais surtout triste, très triste. C'est un peu comme si Internet, cette invention incroyable et mondiale, n'avait finalement eu pour impact que de nous plonger 24 heures sur 24 dans des vidéos de chatons ou des photos automatiquement artistifiées par le téléphone de notre petit cousin par alliance en vacances au Gabon. C'est un peu comme si toute l'humanité avait entre les mains un outil incroyable pour se prendre en main, pour grandir, et qu'elle ne l'utilisait que pour se soumettre à un matraquage publicitaire incessant, volontaire, nous poussant à acheter des gadgets inutiles sur Kickstarter, gadgets qui ne seront de toute façon pas livrés et que nous aurons de toute façon oublié avoir jamais commandé. Nous voulions construire un nouveau monde, nous en avons fait le shopping center ultime, où nous achetons des trucs dont nous n'avons pas besoin, mais que nous ne recevons même plus. Nous payons pour le plaisir d'acheter, pour le plaisir de continuer encore et toujours, à recevoir des notifications, des likes et des publicités. Alors oui, c'est triste. Oui, je suis triste. Le Bitcoin, la blockchain mérite mieux qu'un défilé de marketeurs en costume gris qui s'associent avec des notaires. Parce que honnêtement, depuis quand a-t-on le moindre espoir que des notaires pourraient changer le monde? Hein? Sérieusement, c'est la profession la plus ennuyeuse, la plus inutile, la plus kafkaïenne du monde. C'est un peu la seule chose qui restait aux juristes qui n'ont pas réussi à se débarrasser complètement de leur sens moral afin de devenir avocats. En 2009, on croyait que le Bitcoin allait bouleverser le monde et détruire les gouvernements. En 2019, on trouve excitant une plateforme qui permet d'avoir un avis légal sur un smart contract, ou bien que le président de la banque centrale déclare que « Oh oui, le Bitcoin, c'est un asset pour moi ». C'est ça qui fait la force du vieux monde. C'est ça qui fait que la moitié des politiciens sont des avocats. Ils sont chiants, ils sont ennuyeux. Ils nous engourdissent avec leurs règlements débiles, leurs formulaires en quatre exemplaires et leurs arguties clairsemées de mots en latin. Et ils gagnent. Ils sont en train de gagner. Ils gagnent bien plus que si c'était des militaires dans les rues. On envoie les CRS se battre contre les gilets jaunes pour faire un peu de spectacle dans les médias, mais le jour où on ne veut vraiment pas des gilets jaunes, il suffit de dire « Désolé, l'ordonnance Prout machin interdit votre manifestation. » Et du coup, personne ne vient. Bonjour, on vient pour la révolution. Ah oui, mais désolé, pas aujourd'hui, hein, parce que c'est vous n'avez pas rempli le bon formulaire, et puis en plus aujourd'hui il y a l'enterrement d'un chanteur. Ah ben ok, alors on viendra demain pour la révolution. Alors bordel de merde, inventons, rêvons, lançons des trucs impossibles et on verra bien en route. Des trucs à base de democracy.earth, des microgrids d'énergie illégale aujourd'hui, des Aragones ou des colonies d'Otaio qui sont impossibles à transposer dans un marché du travail qui n'a de toute façon que pour objectif de nous rendre le moins productif possible. Lançons des trucs impossibles, comme envoyer des bitcoins sur la lune. Alors oui, c'est illégal, oui, ça semble impossible, oui, c'est incompatible avec le système existant, oui, ça fout le bordel, oui, ça oblige à repenser plein de trucs. Mais c'est bien. C'est cela qui prouve qu'un projet a une chance, une toute petite et infime chance d'un jour faire évoluer le monde. Parce que si c'est ni illégal, ni quasi impossible, si ça semble réalisable sans trop de difficultés, ou si c'est vendeur, alors ne vous leurrez pas. Vous ne faites que rajouter le mot blockchain derrière SAP, COBOL ou J2EE pour faire bander un département marketing qui ne cherche de toute façon qu'à arrondir son bonus de fin d'année et de faire le plein d'essence de son audit de société. L'imagination au pouvoir, disaient nos parents et grands-parents. Libérez-vous de vos chaînes dans la blockchain. Sous les blocs, la plage. Car si le bitcoin et la blockchain ne font plus rêver, alors tout ce projet aura échoué. On aura créé quelques millionnaires avant que le monde retombe dans sa petite spirale d'autodestruction. C'est vraiment ça qu'on voulait? Alors oui. C'est à toi que je parle, toi qui es bien au chaud dans ton petit incubateur de start-up blockchain ou ton petit boulot pour payer les factures pendant que tu fais un petit projet sur le côté. Statistiquement, de toute façon, tu vas te casser la gueule. De toute façon, tu seras pas millionnaire. De toute façon, ton projet va tomber aux oubliettes. Alors tant qu'à faire, autant se casser la gueule sur un putain de truc qui fait rêver. Un bazar qui envoie des étoiles dans les yeux. Alors qui sait, peut-être qu'on finira par arriver quelque part. Peut-être que t'auras fait 1% d'1% qui nous emmènera sur la Lune. Ou sur Mars. Ou plus loin encore. Et les sages en cravate savaient que c'était impossible. Est arrivé un troufion qui ne le savait pas, mais qui écoutait le Proof of Cast. Et qui l'a fait. En vérité, les amis, je vous le dis et je vous le demande, rêvez, rêvez et faites rêver les autres. Notre salut est à ce prix.
Voilà, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit peu de cérémonialisme, cérémonialité, de cérémonie, enfin bref, d'effet sur la fin, parce que je trouvais ça tellement lyrique que ça le méritait. Merci en tout cas, Plume, pour encore une fois ce magnifique édito, et on retiendra donc le coup de « sous les blocs, la plage ». Je trouve ça absolument magnifique, cette formule, on la réutilisera. Donc, maintenant qu'on a, oui, encore une fois, vous l'aurez compris, hein, cet édito était évidemment enregistré, enfin, en semi-direct du studio où on enregistre. Bref, c'était pas Plume en live puisque, voilà, on a quelques petites difficultés pour se synchroniser ces derniers temps. Mais c'est pas grave du moment que on a, sa plume qui nous arrive quand même jusqu'aux oreilles. Passons maintenant au courrier des auditeurs. Donc, le courrier des auditeurs de cette semaine, c'est un commentaire de Sebdou sur le commentaire de l'épisode 26. J'en profite évidemment, comme à chaque fois, pour vous rappeler que si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions d'amélioration ou simplement des demandes de précision par rapport au contenu des épisodes, vous êtes les bienvenus pour poser ce genre de questions en commentaire sur le blog de l'émission, donc sur profofcast.com ou sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Facebook et tutti quanti. Donc n'hésitez pas et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ici, Sebdou nous dit « J'ai découvert Profofcast récemment par l'intermédiaire du podcast Les Technos. » Bonjour à eux, effectivement. Je vous rappelle, je suis aussi chroniqueur chez Les Technos, donc sur lestechnos.be. J'aime beaucoup votre podcast, en particulier pour la vulgarisation de cet univers parfois complexe à comprendre. Je ne suis pas développeur, donc j'apprécie beaucoup cette vulgarisation, surtout que vous êtes très orienté d'Apps et Ethereum, un univers multiple, en perpétuelle évolution et parfois obscur. J'apprécie aussi beaucoup le fait que vous ne parliez pas ou quasiment pas de spéculation et que vous ne fassiez pas d'analyse boursière. au grand Dieu non. Loin de nous cette idée. Vous parlez technique, besoin ou solution apportée par une technologie. Or, connaître ces aspects est pour moi primordial pour qui voudrait investir ou quelqu'un qui s'intéresse à cette technologie révolutionnaire. C'est bien, il a tout compris. Dernièrement, une news est sortie un peu partout annonçant que la Société Générale avait émis une obligation sécurisée de 100 millions d'euros sur Ethereum. Il serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus car je sais que vous aimez déconstruire ce type d'informations pour aller creuser derrière les titres putaclic. Et il nous envoie le lien de Journal du Coin. Évidemment, on a trouvé d'autres liens que je vous mets aussi dans le blog post de l'émission. Encore bravo pour notre travail. Merci à toi, Sebdou. Alors, on va essayer de répondre à cette question-là de la manière la plus complète possible. Effectivement, j'avais vu passer cette news-là dans la préparation de l'épisode précédent. J'avais pas fait spécialement attention parce que pour moi, c'était encore une de ces initiatives bancaires pour essayer de récupérer la blockchain à grands coups de marketing. Et puis, c'est vrai que merci, Sebdou, pour m'avoir signalé l'info, pour l'avoir fait remonter parce que en s'intéressant de plus près, on constate que c'est intéressant. Donc, appel des faits, le 18 avril dernier, la Société Générale, 19e plus grosse banque mondiale hein, quand même, a publié un communiqué de presse dans lequel elle a annoncé que une de leurs start-up internes, en l'occurrence Société Générale Forge, avait émis pour 100 millions d'euros d'obligations pour le financement de l'habitat. Hein, ils appellent un petit sigle, voilà, comme ils ont dans le secret, les OFH. Et la particularité ici, c'est que ces obligations ont été émises sur la blockchain Ethereum, dans le cadre d'un projet pilote. Oui, oui, vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire. Je vous parle ici de la blockchain publique Ethereum, pas d'une espèce de Ethereum privé comme Carrefour avait pu le faire à une certaine époque. Non, non, la blockchain publique Ethereum, celle-là même dont tous les banquiers nous rabâchent depuis des années, que ce n'est qu'un gadget, ça marchera jamais, que ça sert à rien, que c'est incompatible avec le cadre réglementaire et avec leurs intérêts concurrentiels. Bref, c'est de la merde. Et là, tout d'un coup, dans le communiqué de presse, ils nous vantent les mérites d'un système qui leur permet un temps de mise sur le marché réduit, une automatisation des événements, une transparence accrue, un transfert des titres et des règlements plus rapides, une réduction des coûts et du nombre d'intermédiaires. Bref, tout d'un coup, c'est le paradis. C'est ce qu'on appelle un retournement de veste spectaculaire. Alors, d'un autre côté, on ne va pas s'affoler, hein, ils ont émis les obligations en leur nom propre. C'est pas comme s'ils les avaient vendues déjà à d'autres acteurs. C'est pas comme s'ils allaient ouvrir ces titres blockchainisés à la vente directement. Hein, c'était une opération neutre, hein, ils ont émis les titres pour eux-mêmes. Donc voilà. Mais en même temps, les obligations ont été émises ce qu'on appelle en pari passu. Alors, je connaissais pas du tout l'expression, hein, je vais pas faire mon expert. Mais c'est une expression, enfin, c'est un terme du jargon financier qui veut dire que, en gros, elles seront traitées, ces obligations seront traitées exactement de la même manière que des obligations classiques non crypto en cas de faillite. Ce qui veut dire que, en gros, le niveau de risque est exactement le même que celui d'une obligation classique. Donc, elles seront traitées à pied égal, en français. Bref. Donc, voilà. C'est quand même pas négligeable. Donc, ça, il y a une certaine volonté là derrière. Autre info importante, Moody's et Fitch, qui sont des agences de notation des produits financiers, ont donné un triple A à ce produit, en estimant que c'était plutôt une bonne opération de la part de la Société Générale, que c'était plutôt positif pour eux. À noter au passage que cette initiative s'inscrit pleinement dans cet intérêt grandissant qu'on constate autour de ce qu'on appelle les STO ou Security Token Offerings, c'est-à-dire en gros des offres de tokens qui s'appuient derrière sur des organismes financiers reconnus avec un statut légal et tout ça et tout ça. Alors, dans tout ça, il est quand même peu probable que cette banque ou d'autres d'ailleurs aient complètement oublié leurs craintes et les craintes que la blockchain leur inspire, notamment en ce qui concerne leur capacité à marcher un petit peu sur leur plate-bande, mais il pourrait s'agir d'une diversification de leur pari, d'une certaine manière, histoire de pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, au cas où quand même les plateformes ouvertes l'emporteraient sur les plateformes fermées. Hein. Un peu comme, je sais pas moi, l'Internet face au Minitel, ou le Web face aux intranets, tout ça. Enfin, c'est pas comme si l'histoire nous donnait plein d'exemples dans le passé. Donc voilà. J'aime bien aussi le parallèle que fait Michael J. Casey sur CoinDesk, hein, encore une fois l'article, le lien vers l'article est dans le blog post de l'émission, avec le fait que les plateformes de trading en ligne avaient sérieusement bousculé le marché du trading dans les banques. À l'époque, les banques étaient les seules à faire du trading, et puis il y a eu toutes les plateformes en ligne, mobiles, etc., qui permettaient de le faire, et ça a fortement impacté les commissions, notamment que les traders bancaires pouvaient se permettre de facturer pour leurs services, en augmentant tout simplement la transparence des prix sur les actions, les obligations et tout ça. Mais en même temps, l'augmentation du nombre d'investisseurs et de transactions avait grandement compensé ces marges plus réduites. Donc encore une fois, si ces obligations deviennent plus faciles à émettre, à gérer, à tracer avec des smart contracts, on n'aura peut-être plus besoin des banques pour ces tâches-là, mais on pourrait avoir besoin d'elles pour d'autres choses et plus de gens pourraient s'intéresser à ce genre de produits. Donc encore une fois, comme toujours, ça demande un peu d'imagination, de vision et d'audace, et on peut saluer quand même que pour une fois, la première mondiale, puisqu'il s'agit vraiment d'une première mondiale ici, vienne d'une banque française. Donc voilà, affaire à suivre. Toujours est-il que c'est plus intéressant qu'il n'y paraissait de prime abord. Donc merci Sebdou pour avoir fait remonter cette info. Voilà pour ce qui est du courrier des auditeurs. Maintenant, je vais passer au dossier du Proof of Cast. Alors, là encore, j'ai commis une petite entorse à la règle parce que j'avais encore oublié de mettre mon petit reminder dans mon agenda pour me souvenir qu'il fallait que je signe, j'annonce un petit peu à l'avance le sujet du dossier du Proof of Cast. C'est pas grave. Voilà, c'est une surprise cette fois-ci. Ce que je voulais couvrir comme sujet cette fois-ci, c'était le sharding. Alors, le sharding, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi donc? À quoi ça sert? Dans l'épisode 24, on avait parlé des algorithmes de consensus par preuve d'enjeu, qui était une des principales innovations par lesquelles on espère résoudre les problèmes de scalabilité de la blockchain, notamment sur Ethereum. Dans cet épisode, là, ici, maintenant, j'avais envie de parler de l'autre innovation majeure qui se profile à l'horizon avec le même objectif, qui s'appelle le sharding. Alors, d'abord, le concept de sharding, c'est pas spécifique au blockchain, c'est déjà mis en œuvre dans de nombreuses bases de données classiques pour optimiser leur fonctionnement. Hein, comme on l'a déjà expliqué, dans une blockchain ouverte, l'immutabilité, la résistance à la censure et à la corruption, ainsi que la résilience d'une blockchain, viennent en partie du fait que les données du registre sont répliquées en totalité sur l'ensemble des nœuds du réseau. De cette façon, si vous voulez modifier les nœuds de la blockchain, vous devez altérer toutes les copies de tous les nœuds. Et si vous voulez tuer le réseau, il faut tuer tous les nœuds aussi. C'est un peu la version la plus extrême de la distribution des données, mais cette distribution extrême, elle a plusieurs prix. D'abord, les blocs mettent un certain temps à atteindre l'ensemble du réseau, ce qui établit un plancher sur le temps de minage si on ne veut pas se retrouver avec trop de versions divergentes d'un bloc à chaque fois, ce qu'on appelle les uncles sur Ethereum. Si vous attendez pas que tout le monde ait récupéré le dernier bloc, bah vous allez avoir plusieurs mineurs qui vont miner des blocs concurrents en même temps, et c'est déjà le cas, mais c'est relativement rare, en tout cas c'est encore gérable. Mais si on réduit trop le temps de minage, le délai entre deux blocs, et ben ça va se multiplier, et tout ça à cause de la latence réseau tout simplement. Ce qui, du coup, impacte aussi le débit transactionnel du réseau, puisque si les blocs sont espacés d'un certain temps et que le nombre de transactions dans chaque bloc est limité lui aussi, ben ça limite de fait le nombre de transactions par seconde que le réseau est capable de processer. Et donc, ça impacte aussi le prix des transactions quand le réseau commence à saturer. C'est ce qu'on a vu un petit peu se produire il y a un an et demi, deux ans de ça, avec le succès de CryptoKitties et autres, où on a vu les prix en gaz des transactions sur Ethereum, par exemple, s'envoler à cause de ça. Autre problème lié à cette réplication absolue de toutes les données partout, c'est que la taille de cette structure de données unique ne fait qu'augmenter avec le temps et l'augmentation du nombre d'utilisateurs et donc de transactions du réseau. Et même si la vitesse diminue de temps en temps, bah c'est pas grave, la structure ne fait qu'augmenter en taille générale. Ce qui pourrait rapidement nous amener à un point de blocage en termes de temps de téléchargement et de synchronisation de la blockchain. On l'avait déjà dit, aujourd'hui, l'état total de la blockchain Ethereum, on est à plus de 100 gigas déjà, et ça ne fait qu'augmenter. Donc ça va rapidement devenir un problème assez conséquent quand même. En plus, ça limite de fait le nombre de nœuds qui peuvent se permettre d'héberger la structure complète. Or, de ça dépend aussi la décentralisation effective de l'ensemble. Donc, c'est déjà des problématiques non négligeables. Ajoutez à ça le fait que la vérification des blocs minés et l'exécution des éventuels smart contracts qu'ils contiennent se fait également sur l'ensemble des nœuds, ce qui peut apparaître de plus en plus comme un gâchis d'énergie et de temps. Vous avez là un cocktail assez, assez explosif, en tout cas avec le temps qui passe. Pour répondre à ces problématiques, l'idée du sharding, c'est en fait de fragmenter la blockchain entre plusieurs morceaux qu'on va appeler donc des shards. Chaque shard étant validé et vérifié par un sous-ensemble des nœuds du réseau. Donc au lieu d'être validé par l'ensemble des nœuds, c'est juste des sous-ensembles qui sont affectés à chaque shard. Notez au passage que ici je parle de validation et non de minage. Parce que dans les faits, il est très difficile, voire quasi impossible, de faire du sharding avec du minage par preuve de travail. Le sharding va un peu de pair, ou en tout cas beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et c'est tout est relatif, hein, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre avec la preuve d'enjeu, avec le proof of stake. Du coup, dans ce proof of stake, les mineurs deviennent des validateurs. C'est pour ça que je parlais de validation. Alors, le concept de sharding, on l'a déjà dit, fait partie intégrante de la version 2.0 d'Ethereum, où il devrait donc accompagner le déploiement de la preuve d'enjeu dans les années à venir. C'est pas le seul projet, cela dit, qui travaille sur du sharding. Il est également en cours de développement dans des projets comme Shardcoin, Near Protocol ou encore le Telegram Open Network, développé par l'application Telegram pour permettre à terme de faire des paiements directement entre les utilisateurs de ce système de messagerie. Mais évidemment, vous vous doutez bien que tout n'est pas si facile, c'est une bonne idée de départ. Maintenant, il y a nombreux défis à surmonter, et notamment en ce qui concerne les transactions qui impliquent plusieurs shards, puisqu'en général, un shard ne peut exécuter que des transactions qui affectent les comptes et l'état dont il a une copie. Hein, puisque l'état est divisé sur chaque shard, et ben du coup, vous avez des comptes qui sont locaux à chaque shard. Donc quand vous voulez faire une transaction d'un shard vers un autre, si par exemple vous avez le compte d'Alice qui est hébergé sur un shard 1 qui veut envoyer de l'argent à Bob qui est hébergé sur un shard 2 et que du coup vous avez deux transactions qui vont devoir être enregistrées, une dans chaque shard. Si la transaction de débit est enregistrée mais que la transaction de crédit du compte de Bob ne passe pas, bah, tout simplement parce qu'il y a une réorganisation de la chaîne ou que comme les deux transactions sont a priori indépendantes, bah, il peut y en avoir une qui passe sans l'autre, bah, vous vous retrouvez avec des situations dans lesquelles la transaction n'est pas atomique, c'est-à-dire que ben, soit vous avez en gros création d'argent, s'il n'y a que le crédit qui est processé et pas le débit, soit une disparition d'argent s'il n'y a que le débit qui est processé et pas le crédit. Donc tout ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Évidemment, il y a des solutions à tout ça, mais des solutions qui ne sont pas simples. Un autre défi d'ailleurs consiste à assurer qu'on a un nombre suffisant de nœuds dans chaque shard, histoire de conserver un peu la résilience du réseau. Parce que si un shard est trop petit, ben, il devient un risque de centralisation et donc de corruption ou de point d'attaque. Hein, s'il suffit de aller tuer 2-3 nœuds dans un shard, ben évidemment, ben, on va perdre toutes les données de ce shard et mettre à mal l'intégrité de l'ensemble. Autre problème, comment on peut désigner les validateurs de chaque shard de manière aléatoire, de façon à ce que personne ne puisse prendre le contrôle d'un shard en particulier en prenant simplement le contrôle d'une majorité des validateurs de ce seul shard. Et tout ça, évidemment, sans introduire de centralisation dans le processus de désignation. Il ne s'agit pas de dire, bah, tiens, ce coup-ci c'est toi, ce coup-ci c'est toi, bah, du coup, celui qui sait qui ce sera, eh ben, il devient aussi un point d'attaque potentiel. Donc dans la plupart des implémentations, ce besoin-là et d'autres entraînent la création d'une espèce de chaîne de coordination, une espèce de chef d'orchestre qui désigne les validateurs de chaque shard de manière aléatoire justement et qui s'assure de l'équilibre des différents shards et de l'intégrité globale de tous ces sous-systèmes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une chaîne balise ou une beacon chain. Il existe aussi des designs un peu plus sophistiqués qui ne nécessitent pas de beacon chain, qui sont vraiment encore à l'état préliminaire, à l'état d'étude, donc on ne va même pas en parler ici, c'est encore pas la stratégie, en tout cas, qu'a décidé d'adopter, par exemple, Ethereum et même d'autres projets tout aussi avancés dans le domaine. Enfin, autre problème qui là est plus spécifique à des blockchains existantes comme Ethereum, la question est comment on migre d'une énorme blockchain proof of work non shardée vers une blockchain proof of stake shardée, et ce évidemment sans tout casser de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est un défi gigantesque en soi. Et ça va être un des plus gros défis. Si vous pouvez démarrer un projet avec une blockchain shardée directement, ça reste quand même beaucoup plus simple que si vous devez gérer la compatibilité ascendante, gérer le système ancien et migrer de l'ancien vers le nouveau. Et là, je n'ai parlé évidemment que des défis techniques à proprement parler. Mais on doit aussi parler de certains vecteurs d'attaque possibles. Par exemple, il est a priori beaucoup plus facile, en théorie, de corrompre 51% des validateurs d'un shard que 51% des validateurs de tout le réseau. Donc comment on évite qu'un shard soit à l'origine d'un bloc frauduleux? Là aussi, le Beacon Chain peut jouer un rôle clé. Il peut aider à surveiller certains éléments, à recevoir des avertissements quand il semble qu'il y ait un bloc qui soit pas tout à fait légitime. Il y a certaines techniques qu'on peut mettre en place au niveau d'un Beacon Chain pour mitiger ce genre de risque, mais encore une fois, c'est loin d'être évident. Autre vecteur d'attaque possible, qu'une majorité des validateurs d'un shard se mettent d'accord pour produire un bloc invalide. Dans une blockchain non shardée, même si ça se produisait, puisque tous les nœuds n'acceptent que la chaîne valide la plus longue, les deux éléments sont importants, même si les validateurs frauduleux ont plus de pouvoir validation, ils sont donc capables de produire la chaîne la plus longue, ce sera quand même la chaîne la plus longue, mais invalide. Et donc elle sera considérée comme invalide par tous les autres nœuds qui vont la rejeter. Donc c'est pas forcément que la chaîne la plus longue qui est acceptée, c'est la chaîne la plus longue valide. Maintenant, ce genre de vérification devient complètement impossible dans une blockchain shardée, puisqu'aucun des shards n'a une vision d'ensemble de toute la blockchain et de toute son histoire. Et ici, le Beacon Chain n'aide pas vraiment, puisque même le Beacon Chain n'a pas cette vision globale non plus. Sinon, s'il l'a, on revient un petit peu à la case départ. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées pour mitiger ce risque. La première consiste en gros à ignorer le problème en disant « mais non, en fait, si on fait tourner les validateurs aléatoirement et qu'on a un bon algo de consensus sur chaque shard, la probabilité que ça se produise est quand même assez faible. » Bon, c'est un peu risqué. Ça n'a pas été prouvé mathématiquement que le risque était si négligeable que ça. Deuxième possibilité, on se débrouille pour s'assurer que chaque shard inclura toujours au moins un nœud honnête qui aura la possibilité de remettre en question la validité d'un bloc et qui sera intéressé à le faire. Mais là, ça introduit des délais supplémentaires puisque il faut un délai pendant lequel ce validateur honnête a la possibilité de challenger en gros un bloc qui a déjà été produit. Et pendant ce temps-là, potentiellement le bloc n'est pas final. Donc ça introduit d'autres soucis. Soit autre possibilité, on met en œuvre un mécanisme qui permet de vérifier que la fonction, ce qu'on appelle la fonction de transition d'état, c'est-à-dire en gros la fonction qui décide comment on produit un nouveau bloc est valide à partir de l'existant, à partir de toute l'historique existant. Donc il existe la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme qui permet de vérifier que la fonction de transition d'état, justement, elle est appliquée correctement. Mais alors, il faut que le coût de cette opération de vérification, en gros, que le boulot a bien été fait, soit très inférieur au coût de cette fameuse fonction de transition d'état elle-même. Sinon, on revient à la case départ et on a un système qui devient beaucoup trop complexe et beaucoup trop coûteux. Or, aujourd'hui, le seul mécanisme mathématique qui s'approche le plus de ce genre de choses, c'est par exemple les ZK-SNARKs, dont on a déjà parlé, le Zero Knowledge Proof, même si ici, dans ce cas-là, on n'aurait pas vraiment besoin du Zero Knowledge, mais uniquement de la partie SNARKs. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails matheux du truc, mais voilà, c'est une possibilité, sauf que même des SNARKs sans Zero Knowledge, ça reste encore très coûteux en termes de puissance de calcul. Donc il y a encore des problèmes qui sont non réglés, qui sont un petit peu à l'origine de nombreuses recherches. Et je vais même pas passer en détail dans les risques encore plus sophistiqués qui me prendraient encore des heures à évoquer et qui deviendraient vraiment très très complexes. Disons juste que la phase 0 d'Ethereum 2.0 qui devrait normalement commencer à être déployée d'ici l'été, peut-être l'automne de cette année, va créer une Beacon Chain, mais uniquement avec du Proof of Stake, donc uniquement avec la preuve d'enjeu, mais sans sharding pour l'instant. Et le sharding ne devrait être intégré que dans une phase ultérieure de ce déploiement d'Ethereum 2.0. À noter aussi, très important pour faire la différence entre les choses, que le sharding c'est une solution de niveau 1, c'est-à-dire qu'elle s'intègre dans le protocole de la blockchain elle-même, contrairement aux canaux d'état, donc les state channels, ou à Plasma, qui sont des solutions de niveau 2, qui font aussi, qui apportent aussi des solutions en termes de scalabilité, mais un niveau plus élevé, un niveau plus logiciel, si on veut, par-dessus l'infrastructure que constitue la blockchain. Donc, les deux sont pas exclusifs. On peut mettre en place des state channels ou du plasma sur une blockchain chardée comme sur une blockchain non chardée. Donc ça ne devrait pas être un souci et les deux effets devraient se cumuler. Bref, vous l'aurez compris, tout ça est vraiment hyper cutting edge, mais pourrait apporter de vraies solutions concrètes aux problèmes de scalabilité des blockchains ouvertes, sans pour autant, évidemment, compromettre leur décentralisation, qui reste au cœur des préoccupations, hein, parce qu'on l'a déjà dit, c'est assez facile de scaler en centralisant. Mais là, l'objectif, c'est de scaler tout en gardant la décentralisation intacte. Ce qui est quand même intéressant, c'est de rappeler que certains, dont Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum par exemple, estiment déjà que le sharding et la preuve d'enjeu ensemble pourraient apporter des facteurs de facteurs multiplicateurs d'efficacité de l'ordre de 1000. C'est-à-dire que la blockchain shardée en preuve d'enjeu, Ethereum, pourrait être 1000 fois plus rapide que la blockchain non shardée, proof of work qu'on a aujourd'hui. Ce serait quand même pas négligeable quand même comme facteur d'augmentation. Maintenant, on va pas se mentir, ça va prendre encore quelques années pendant lesquelles certains vont continuer à nous dire que ça marchera jamais et qui vont rester focalisés sur là où se trouve le puck aujourd'hui au lieu de se concentrer sur là où il pourra être demain. Mais bon, voilà, vous aurez compris, comme toujours, il y a des gens qui manquent définitivement d'imagination et de vision. Cela étant dit, c'est pas gagné. Et il va falloir voir, suivre les évolutions de cette technologie. Et évidemment, on se fera un plaisir de rapporter toutes les avancées qui se font dans ce domaine et dans d'autres dans le Proof of Cast. Voilà qui clôture ce nouveau dossier du Proof of Cast. Et on va passer maintenant aux actualités. Alors, la première news sur laquelle je voulais revenir, c'est un peu la news de la semaine, parce que c'est quand même pas négligeable, non seulement dans la nature de l'actualité elle-même, mais aussi dans ses retombées. On va parler de Binance. Alors, mardi dernier, le 7 mai 2018, Binance, qui est donc un des plus gros échanges de crypto, a annoncé avoir subi le vol de plus de 7000 bitcoins, soit environ 41 millions de dollars. Apparemment, les hackers ont réussi à s'emparer de clés d'API, de codes d'authentification à deux facteurs et probablement aussi d'autres infos qui leur ont permis de purement et simplement se servir dans le wallet à chaud de la place de marché. Donc on rappelle, hein, ces places de marché ont généralement un wallet à chaud avec lequel elles gèrent toutes les transactions courantes et puis un wallet à froid dans lequel elles stockent une bonne partie de leur possession histoire de les protéger, de les mettre à l'écart de tout risque d'attaque. Mais ici, le wallet à chaud de Binance était quand même assez conséquent. Alors, ils ont quand même souligné, ça je trouve ça intéressant, que ce hot wallet ne détient que 2% de leur bitcoin. Donc 2%, ça représente déjà 41 millions de dollars, ça voudrait dire que la totalité des bitcoins de Binance valent plus de 2 milliards d'euros. Waouh, c'est quand même pas négligeable. Encore une fois, on a un gros mastodonte ici et c'est un des échanges les plus importants dans l'écosystème en termes de volume. Maintenant, donc ça, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'évidemment, s'il n'y a que 2% qui étaient concernés, ça veut dire qu'une majorité des fonds étaient protégés et que donc, allez, les dommages étaient circonscrits, on va dire. Autre bonne nouvelle au passage, c'est que Binance avait déjà commencé depuis quelques mois à constituer un fonds de sécurité pour couvrir ce genre d'événement. En gros, ils avaient mis de côté 10% de leurs bénéfices sur les frais de transaction tous les mois, de manière à se constituer un fonds de sécurité. Et là, en l'occurrence, ils vont couvrir. Ils ont annoncé en tout cas qu'ils allaient couvrir la totalité de ce vol avec ce fonds de sécurité. Ça va leur faire mal quand même, mais a priori, ils devraient couvrir les fonds, ce qui veut dire que, a priori, les clients de Binance ne devraient rien perdre. Seul Binance lui-même devrait payer la facture. C'est quand même pas négligeable. Maintenant, comme je le disais, l'actualité en elle-même est déjà notable, parce que Binance, c'est quand même pas une petite place de marché secondaire comme peuvent l'être par exemple Quadriga CX ou d'autres places comme ça qui ont défrayé la chronique récemment. Mais en plus, ce que j'ai trouvé plus choquant dans cette actualité, c'est que pendant un temps, Changpeng Zhao, donc le CEO de Binance, a quand même envisagé, ou en tout cas retenu la proposition, on va dire, de négocier avec les mineurs un rollback de la transaction moyennant un partage des fonds récupérés. Alors au passage, la transaction en question, je vous ai mis un petit lien dans le blog post, vous pouvez aller voir, c'est très drôle. Au passage, on a une transaction qui transfère 7000 et des bitcoins vers plein d'autres petits comptes. Une des personnes qui participait à une session de questions-réponses avec Changpeng Zhao avait suggéré que Binance se mette d'accord avec les mineurs pour annuler cette transaction purement et simplement. Maintenant, lui-même a assez vite rejeté cette proposition en disant qu'il avait peur quand même que... Bon, a priori, il estimait que c'était faisable en quelques jours. Hein ? Quoi ? Faisable en quelques jours ? Alors déjà que ce soit faisable... En quelques jours en plus, donc ça c'est inquiétant, mais quand même qui se refusait à le faire parce que ça serait dangereux pour la crédibilité de Bitcoin. Non, sans déconner. Donc voilà, Bitcoin c'est toujours targué d'être cette forteresse d'immutabilité, hein, ou Ethereum qui a annulé les transactions de The DAO, mais voilà. Là, on a quand même un gros acteur du marché, tellement gros qu'il estime que pour lui, ça lui prendrait quelques jours de, en gros, corrompre quelques, ou en tout cas convaincre, allez, on va dire, un certain nombre de mineurs et de mining pools pour annuler une transaction. Évidemment, les mineurs ont dit non, fallait pas s'imaginer qu'ils allaient le faire aussi. Mais bon, moi, je trouve quand même que la suggestion et le fait qu'il estime que ce soit possible, lève quand même certaines inquiétudes. Du côté des hackers, depuis leur cambriolage, on peut observer évidemment toutes les transactions qui sont parties des comptes vers lesquels les 7000 et des bitcoins ont été virés. On peut constater, certaines firmes d'analyse sont sur sont sur la balle et essayent d'observer un petit peu ce qui se passe. On peut observer qu'ils sont occupés à transférer leur butin et à le découper en sommes plus petites pour essayer de couvrir leurs traces, hein, en gros de blanchir l'argent du vol. Et en gros d'essayer de rendre leurs fonds impossibles à tracer. Alors est-ce qu'ils arriveront un jour à liquider ces bitcoins sur Binance lui-même ? Ce serait drôle, mais en tout cas voilà, pour l'instant ils sont en train de splitter tout ça et d'essayer de couvrir leurs traces. Affaire à suivre, mais qui illustre encore une fois la totale faiblesse de ces places de marché centralisées qui n'ont absolument rien à foutre dans l'écosystème et qu'on doit remplacer par des alternatives décentralisées le plus rapidement possible. Maintenant, il semble pas que cette fois-ci ce soit suffisamment effrayant pour que les DEX, donc les Decentralized Exchanges, les plateformes décentralisées d'échange, et enregistrer encore une augmentation massive de leur utilisation. Donc visiblement, les gens ont encore confiance. En attendant, on répète les consignes de sécurité. Dès que donc les sorties de secours se trouvent à l'avant, au milieu et à l'arrière... Non, c'est pas celle-là. En attendant, donc... Dès que vous avez acheté vos cryptos sur ce genre de plateforme, vous les mettez à l'abri, hein, sur des wallets software ou hardware dont vous avez le contrôle total, et vous transférez vos fonds vers ces plateformes qu'avant de les liquider. Et entre-temps, ben, vous ne les laissez pas là-bas. Hein. Voilà, c'est toujours intéressant de faire ce petit rappel élémentaire. Voilà qui couvre cette actualité concernant Binance. Maintenant, on va reparler de MakerDAO, autrement dit MakerDAO, la suite. Et parlons de Decentralized Finance, ou DeFi. C'est un terme qui semble aussi être à la mode cette année. Hein, aussi à la mode cette année que l'étaient les NFT, donc les Non-Fungible Tokens, l'année dernière, ou les ICO l'année avant. Hein, chaque année, il y a une petite mode comme ça qui revient. Et cette année, apparemment, c'est le DeFi, donc le Decentralized Finance. On avait déjà évoqué donc MakerDAO justement dans l'épisode précédent. Hein, pour rappel, il s'agit de cette plateforme de prêt décentralisée qui tente de créer un stablecoin indexé sur le dollar US sans nécessiter pour autant la création d'un compte, la centralisation d'un compte en dollars. Pour ce faire, ils octroient des prêts en un token qui s'appelle le DAI token contre un dépôt de collatéral en Ether, avec un taux d'intérêt variable qui lui est payable dans un autre token qu'on appelle le MKR. Et le MKR permet de jouer, enfin le taux d'intérêt en MKR permet de jouer sur la demande de DAI et donc sur son prix pour le garder le plus près possible du dollar. L'idée étant que si vous augmentez le taux d'intérêt, les crédits deviennent moins intéressants, il y a donc de moins de demandes pour le DAI, et donc il y a moins de DAI en circulation, et donc le prix unitaire du DAI augmente. Et inversement, si vous baissez les taux d'intérêt, il y aura plus de DAI en circulation et donc son prix va diminuer. Et en jouant sur le taux d'intérêt, on peut jouer aussi sur l'appairage avec le dollar. C'est ce qu'on avait expliqué déjà la dernière fois. Au passage, ces mêmes tokens MKR qui sont utilisés pour payer les intérêts permettent aussi de voter pour les propositions qui font évoluer le taux d'intérêt, entre autres décisions de gouvernance de MakerDAO. Eh bien, depuis janvier, on avait déjà dit que le DAI s'éloignait dangereusement du dollar et plusieurs votes successifs avaient amené le taux d'intérêt de 0,5% au départ à aujourd'hui, il est monté jusqu'à 19,5%. L'espoir étant que ça allait faire remonter, encore une fois, la valeur du DAI. Et ces votes se sont enchaînés en succession assez rapide puisque on pouvait constater que l'effet était vraiment pas immédiat. Le fait est que maintenant le DAI a remonté, le cours du DAI a remonté jusqu'à s'approcher très près du dollar. Il était monté jusqu'à un petit peu plus d'un dollar il y a quelques jours, puis il est retombé entre 0,99 dollars la dernière fois que j'ai vérifié. Mais voilà, donc il s'approche quand même du dollar. Maintenant, c'est assez difficile de dire si cette hausse est un résultat direct de la contraction du nombre de DAI en circulation, hein, qui elle-même est un effet donc de l'augmentation du taux d'intérêt, ou alors si ça vient de la hausse de la demande causée d'une part par les problèmes révélés autour du Tether, hein, l'autre stablecoin qui utilise une autre approche, et d'autre part par la couverture presse plus grande autour de MakerDAO récemment, justement à cause de tous ces mouvements autour du taux d'intérêt. C'est difficile de dire d'où ça vient, mais bon, toujours est-il que ça remonte. Il va aussi falloir attendre de voir si cette hausse elle est stable avant de dire si l'indexation est vraiment restaurée. D'autres actualités autour de MakerDAO pourraient d'ailleurs aussi influencer cette valorisation. Par exemple, après avoir fait état de tensions importantes au sein du management du projet MakerDAO, tensions qui avaient entraîné d'ailleurs le limogeage de 5 des 9 membres du board de la fondation MakerDAO par son CEO, Rune Christensen, donc c'est Coindesk qui avait révélé cette info, ils ont maintenant publié un long document, authentifié depuis comme ayant été écrit par Andy Millenius, qui était l'ancien CTO de MakerDAO, et après avoir lui-même quitté l'organisation MakerDAO aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce document raconte en détail l'histoire de MakerDAO depuis ses débuts il y a 2 ans et demi de ça, donc en 2016, il me semble, et dresse le portrait d'un projet divisé entre les ambitions très formalisées et dans les clous, on va dire, du CEO Rune Christensen et la vision plus décentralisée et un petit peu rebelle sur les bords de son cofondateur de l'époque, Nikolai Mushegan. Cette dissension-là avait mené à la proposition d'un dilemme au début de cette année, de l'année 2019, par Rune Christensen, donc le CEO. Ces deux propositions, en gros, c'était en gros, soit vous me suivez, vous prenez la pilule rouge, c'est explicitement comme ça qu'il l'avait appelé. Soit vous prenez la pilule rouge, vous me suivez et on va continuer à faire de MakerDAO un système réglementaire qui rentre dans les clous, dans les cadres légaux, etc. et qui s'intègre parfaitement dans le système financier international. Soit vous prenez la pilule bleue et vous allez avec la proposition de Mushegan qui est un petit peu plus subversif sur les bords. Alors c'est déjà intéressant qu'il ait choisi cette analogie puisque dans Matrix, hein, on rappelle, la pilule rouge c'est celle que choisit Neo, celle de la rébellion et de l'abandon de la matrice, alors que dans le cas présent, la pilule rouge de Christensen c'était plutôt celle qui voulait rester légale, conforme au système financier global, qu'on pourrait facilement associer à la matrice. Mais bon, après je vous laisse libre d'interpréter ces différentes analogies. Bref, suite à ce dilemme qui n'en était pas vraiment un, il semblerait qu'un certain nombre de membres du board aient créé un canal de discussion sur Signal, donc une autre plateforme de messagerie, le groupe qui s'est appelé de la Purple Pill, donc la pilule violette, hein, mélange du bleu et du rouge, tout ça, pour essayer de trouver une voie du milieu qui puisse essayer de résoudre un petit peu ce différend. Maintenant, Christensen lui-même ne l'entendait pas du tout de cette oreille et voyait dans ce groupe juste une tentative de trahison à laquelle il a coupé court en virant tout simplement les 5 membres du board qui avaient initié ce groupe de discussion. Et il se trouve que l'écriture du document qui a été publié par CoinDesk est de l'aveu même de son auteur une tentative de faire entendre raison à Christensen, une espèce de plaidoyer pour intégrer un petit peu toutes les opinions de la communauté et pas seulement les siennes. Voilà qui illustre encore une fois le fait que malgré les volontés de décentralisation et les mécanismes techniques qu'on peut mettre en œuvre pour tout ça, le code reste écrit et financé par des vrais gens avec leurs opinions, leurs visions, leurs différences et leur prise de pouvoir. Donc voilà, hein. Deux autres actualités à surveiller qui pourraient aussi affecter le cours du DAI token. D'abord, une grosse faille de sécurité a été récemment découverte par Zeppelin, encore eux, hein, le célèbre maintenant cabinet d'audit des smart contracts et notamment sur Ethereum, qui aurait permis éventuellement à un attaquant de manipuler les votes et de bloquer des tokens MKR dans le contrat de vote, avec des implications potentiellement assez graves. Heureusement, ce contrat de vote n'était pas trop décentralisé, ce qui a permis à MakerDAO de coordonner une mise à jour du contrat pour combler la faille. Maintenant, le risque ici, c'était d'informer tout le monde qu'ils devaient retirer leur token du contrat à cause d'une faille, sans pour autant rendre cette faille trop publique, au risque de mettre la puce à l'oreille d'un hacker qui aurait pu l'exploiter. Voilà. Donc cette limite, on rappelle, hein, la limite donc de l'immutabilité d'une certaine manière des smart contracts sur Ethereum et sur les blockchains d'une manière générale, ça pourrait apporter de l'eau au moulin de ceux qui prétendent que les smart contracts c'est intenable, de par leur immutabilité justement. Pour moi, ça pousse juste vers la nécessité de langage de programmation de ces smart contracts qui soient plus formels, plus prouvables, ainsi que d'outils de développement qui permettent de prouver justement qu'un contrat fait ce qu'il est supposé faire. Hein, ces langages et ces outils sont lourds et pas forcément très accessibles, mais ils existent pour des systèmes plus critiques, hein, comme par exemple le transport aérien, le spatial ou le ferroviaire par exemple. Par exemple, j'ai souvenir de mes études d'ingénieur en informatique où on nous avait parlé d'une obscure méthode B qui a été conçue par les Français il y a presque 40 ans maintenant et qui a permis de développer des systèmes d'automatisation comme ceux de plusieurs lignes de métro à Paris, la 1 et la 14 si mes souvenirs sont bons, où certains systèmes d'Ariane 5, par exemple. Je serais curieux de savoir si le même genre de méthode pourrait être utilisé pour des smart contracts. Plus proche de nous, on rappelle qu'il y a aussi Tezos, qui en plus de proposer un algorithme de consensus auto-modifiable, propose aussi un langage de programmation fonctionnel prouvable qui s'appelle le Michelson. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives dans ce biais-là qui pourraient apporter des solutions à ces problèmes d'immutabilité des contrats quand on note des bugs de sécurité aussi importants. Dernière actualité au passage, plus positive celle-là concernant MakerDAO et qui pourrait aussi affecter sa valorisation, c'est que dans les différentes discussions qui ont eu lieu ces derniers temps, il y a les premières démos de prototypes qui ont été démontrés pour une plateforme qui permettrait bientôt d'obtenir des prêts en DAI contre d'autres collatéraux que l'Ether. Donc éventuellement peut-être le Bitcoin, peut-être d'autres crypto-monnaies, on n'a pas les détails très précis là-dessus pour l'instant, mais toujours est-il que ça deviendrait possible. Bref, ça bouge beaucoup du côté de DAI, de MakerDAO et de la DeFi, donc on va continuer à suivre ces dossiers de très près. Et puisqu'on parle de stablecoin, parlons de l'autre approche, celle de Tether, portée par iFinex, la société mère de Bitfinex, qui est dans la tourmente depuis quelques mois déjà. Encore une fois, on en avait parlé l'épisode précédent. Donc, pour rappel, hein, rappel des faits, depuis 2018 déjà, des doutes avaient été mis concernant la réalité des fonds détenus par Tether pour justifier de la valeur de son stablecoin. Et on avait justement évoqué dans l'épisode précédent que des doutes avaient été émis par rapport à tout ça et que surtout l'avocat général de l'État de New York avait émis une injonction à l'égard de iFinex pour faire état d'une perte de 850 millions de dollars par Bitfinex qu'ils auraient éventuellement couvert, partiellement en tout cas, par un prêt de 650 millions de dollars contracté auprès de Tether. Donc Tether aurait transféré 650 millions de dollars vers Bitfinex pour couvrir une perte de Bitfinex. Et ces fonds auraient été issus directement du fonds de réserve qui devait garantir, enfin servir de garantie pour la valeur du stablecoin Tether. Et ce, sans en informer les investisseurs, ni brûler de token Tether en conséquence pour maintenir une indexation juste. Alors, la défense de Bitfinex consistait à dire que les 850 millions de dollars n'avaient pas été perdus, mais simplement verrouillés dans un des intermédiaires financiers avec lesquels ils travaillent, qui s'appelle Crypto Capital. Et que le transfert de 650 millions de dollars, enfin de Tether vers Bitfinex avait été couvert par une écriture inverse dans les livres de compte de la banque en question, donc par Crypto Capital eux-mêmes. Maintenant, si c'était possible de faire ce genre d'écriture, c'est que les fonds n'étaient pas si verrouillés que ça. Et en fait, on a appris depuis qu'effectivement, ils étaient verrouillés, notamment à cause d'une enquête du gouvernement américain sur d'autres fonds qui auraient été utilisés au sein de Crypto Capital pour des activités manifestement frauduleuses. Et donc, ils ont tout bloqué carrément. Et du coup, ça a impacté aussi Bitfinex. Maintenant, Bitfinex estime qu'il leur faudra au moins quelques semaines, enfin, eux, ils disent maximum quelques semaines, vous inquiétez pas, seulement pour débloquer les fonds de Bitfinex et du coup annuler la transaction entre Bitfinex et Tether. Le fait est que dans le cadre de la bataille légale qui oppose maintenant Tether à l'avocat général de New York, un des avocats de Bitfinex a confirmé officiellement qu'au 30 avril, les fonds de Tether n'étaient garantis qu'à 74% par des fonds équivalents en dollars. Et une autre avocate de Tether est même allée jusqu'à justifier cet état de fait en disant que, contrairement à ce que semblait penser l'avocat général, Tether n'était pas obligé de détenir un dollar pour chaque Tether en circulation. Ah bon ? Cette dernière nouvelle. Alors, je ne sais pas si l'avocat général de New York le croyait, mais je pense qu'il y a un bon nombre d'utilisateurs de Tether qui, eux, en étaient convaincus. Et là, ils annoncent carrément que non, c'est pas le cas et on n'est même pas obligé de le faire. Mais alors, du coup, c'est quoi l'intérêt de Tether ? On se le demande. Et le plus choquant, je trouve, c'est que maintenant, les avocats de Tether vont jusqu'à formuler des menaces du genre « Avec vos conneries, ce sont les fonds de nos clients et leurs investissements qui vont souffrir. Et même comme on est tellement important sur la place de marché, enfin dans l'écosystème, vous risquez de mettre à mal tous les gens qui ont mis leurs fonds dans des crypto-monnaies. » Autrement dit, c'est une variante du bon vieux « too big to fail hein, » que nous ont servi les banques à l'époque de la crise des subprimes, en disant quand même « Faites gaffe, ne nous régulez pas trop parce que sinon, il y a des gens qui vont perdre leurs sous-sous. » Ouais, enfin bon, encore une fois, c'est une centralisation dans sa plus belle splendeur, quoi. Donc, d'un autre côté, rappelons quand même que tout ce merdier tire sa source des difficultés qu'ont les entreprises crypto à trouver des banques qui veulent bien les servir et le pouvoir incroyable qu'ont celles qui acceptent de le faire sur les acteurs du secteur. Ici, en l'occurrence, Crypto Capital qui voilà n'a pas d'autre explication à fournir. Oui, on s'est fait saisir nos fonds, paf, on vous bloque vos fonds aussi. Ouais, et il n'y a pas de garantie dans ces cas-là. Enfin, voilà, donc... C'est un petit peu tendancieux et dangereux, mais tout ça est encore une fois imbriqué dans le système financier existant. Maintenant, la création même du Tether prend sa source justement dans les difficultés qu'avaient Bitfinex et d'autres échanges à trouver la liquidité nécessaire pour se transférer des fonds entre eux via les banques classiques. Donc voilà, tout ça est un peu lié les uns avec les autres, c'est moche. Et c'est un peu consanguin, je trouve. Ironiquement, certains analystes trouvent qu'il pourrait y avoir là une vraie opportunité pour les banques de maintenir leur propre fonds de réserve pour émettre un crypto-token indexé. Maintenant, pas sûr que les gouvernements les y autorisent, hein, vu que c'est un peu leur monopole d'émettre de la monnaie et qu'ils y tiennent. En tout cas, maintenant, dans le cas de Tether et Bitfinex, c'est carrément la Cour suprême, en la personne du juge Joel Cohen, qui s'implique et qui a demandé à l'avocat général de New York et à Bitfinex de se mettre d'accord sur le scope de l'injonction, puisque l'avocat général de New York avait demandé à Bitfinex de produire les documents qui permettaient d'expliquer un peu tout ce qui se tramait chez eux. Donc la Cour suprême a demandé à l'avocat général de se justifier et à Bitfinex et l'avocat général de se mettre d'accord en gros sur qu'est-ce qu'ils devaient fournir et dans quel délai. Bref, la bataille va encore durer et ça renforce mon sentiment que ce genre de stablecoin centralisé est à fuir comme la peste. Et à côté de ça, évidemment, pour pas simplifier les choses, pour compliquer encore l'affaire, iFinex est en train de lancer une IEO, une Initial Exchange Offering. Faudra qu'on arrête avec tous ces sigles à un moment donné. Autrement dit, une levée de fonds participative, en gros, pour un montant de, accrochez-vous à vos chaises, $1 milliard. Et oui, et comme par hasard, oui, ce montant devrait lui permettre de couvrir la dette qu'ils ont avec Tether en attendant qu'ils récupèrent les fonds saisis chez Crypto Capital. Cette levée de fonds, au passage, dont le white paper officiel a été publié le 8 mai dernier, passera par l'émission d'un nouveau token, le Leo, et apparemment, ils auraient déjà atteint le milliard de dollars en engagement d'investissement. Enfin, le milliard de Tether, en fait. Ce qui est déjà plus vraiment pareil, on rappelle. Ah là là, tout ça est magnifique. Encore une fois. Donc voilà, ça conclut un petit peu l'actualité de la semaine qui était assez riche et mouvementée. Et encore évidemment, je vous ai condensé tout ça. Je vous mets de toute façon, comme toujours, les liens détaillés vers tous les articles, notamment sur CoinDesk qui est vraiment doué pour couvrir toutes ces news en détail et de manière assez compréhensible. Donc si vous êtes aussi anglophone, je vous invite à aller lire ces articles. Tous les liens sont dans le blog post de l'émission. Et si vous avez encore une fois des demandes de précision, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans tout ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à revenir en commentaire du blog post de l'émission ou sur les réseaux sociaux pour nous poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà qui clôture l'actualité de cet épisode. Passons rapidement aux activités de l'équipe. Alors avant de passer aux activités de l'équipe, je veux juste souligner qu'il y a une annonce qui a été faite juste samedi, donc c'était pas plus mal que je décale un petit peu l'enregistrement, puisque comme ça vous êtes au courant maintenant. La sixième édition, mais qui s'appelle DEFCON 5, parce que la première c'était la 0, évidemment, de la conférence des développeurs Ethereum a été annoncée. Elle aura lieu du 8 au 11 octobre prochain à Osaka, au Japon, et non pas à Tokyo, parce qu'il y a eu déjà des news, des rumeurs comme quoi une fausse conférence allait essayer d'arnaquer les gens en vendant des tickets pour une conférence qui aura lieu en novembre en plus à Tokyo, donc rien à voir, c'est bien à Osaka au Japon, ça a été vérifié, contre-vérifié, encore une fois du 8 au 11 octobre. Donc si ces choses-là vous intéressent, que vous êtes développeur ou pas d'ailleurs, j'invite toujours les gens à s'intéresser à ça, même s'ils ne sont pas développeurs, Osaka au Japon en octobre. À côté de ça, comme d'habitude, vous pouvez retrouver Plume sur plume.net. Et puis il a toujours son Tipeee sur lequel vous pouvez le soutenir aussi. Vous pouvez me retrouver dans le podcast Les Technos sur lestechnos.be. Il y a toujours le cours sur Udemy avec le coupon ProofOfCast qui vous permet d'apprendre à développer des smart contracts sur Ethereum pour la modique somme de 10€, juste pour vous. Et si vous voulez soutenir l'émission financièrement, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Prochain épisode du Proof of Cast, ce sera l'épisode 28, qui sera diffusé normalement le 25 mai, si d'ici là je ne mange pas des trucs qui passent pas. Et je vous remercie en attendant d'avoir écouté jusqu'ici. Au passage, n'oubliez pas aussi de nous laisser des petites reviews sur iTunes, tout ça, ça fait plaisir. Et ça permet de diffuser encore plus la bonne nouvelle. On a eu des reviews aussi super élogieuses sur Facebook. Donc vous pouvez aussi nous laisser des reviews sur la page du Proof of Cast, la page Facebook du Proof of Cast. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt et au revoir.